d'acier plus qu'au monde.
Fiction cathartique pour personnes fantastiques.
Vous écoutez ou contemplez 2D6 plus cool, une émission où l'on performe, on enregistre et l'on monte nos parties de jeux de rôle comme des spectacles. Nous sommes début 2024 et voici grand format La Grive Noire. Dans ce jeu auto-édité de Milouche, on joue à plusieurs un environnement rural et intemporel. C'est un jeu sans personnages joueurs. On incarne des cadres qui représentent chacun une partie matérielle ou immatérielle de l'environnement. Ici, une vallée où le vent fait tourner des moulins. Taliesin sera les légendes locales. La Kessis sera le temps qui passe. Milouche sera l'ambition des habitants. Et votre serviteur Lamson sera le vent qui souffle et ne s'arrête pas. Par notre narration, nous allons sculpter cet environnement de concert ou en opposition. La Grive Noire est un jeu impressionniste qui tient en quelques règles de narration. On doit soit rebondir sur un élément de la narration de la joueuse précédente, soit agrandir ou rétrécir le cadre. Un soleil de parole, constitué de plusieurs bâtons de parole entremêlés, permet de faire savoir qu'on veut parler. Ceux qui nous suivent en vidéo verront l'une saisir une branche pour indiquer au narrateur actuel qu'il doit bientôt s'interrompre, ou un autre toucher une branche pour demander l'espace de placer une incise. Nos auditeurs qui n'ont pas la couleur imagineront ces passages de relais. Notre partie se découpe en 6 scènes matérialisées par des perles sur un chapelet. Une fois les 6 scènes passées, arrive le glas, qui marque une transformation irréversible de l'environnement. Une fois le glas et un épilogue narré, la partie s'arrête. Bonne écoute.
Bon, bienvenue pour cette partie de la Grive Noire. Ce que je vous propose pour commencer, c'est de définir ensemble l'environnement de jeu dans lequel on incarnera nos cadres. Pour ce faire, c'est assez simple. On va, dans un premier temps, décrire cet environnement. Donc une première personne va décrire les choses de très 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 loin. Puis une deuxième personne va zoomer. Puis une troisième personne zoomera encore plus, puis encore plus. Donc si je donne un exemple, la première personne va dire une bande jaune, une bande bleue, une bande verte, par exemple. Une deuxième personne va dire, eh bien cette bande bleue, c'est une mer très agitée qui vient s'écraser sur une plage sur laquelle il y a quelques arbustes qui subsistent sous le vent. Une troisième personne zoomera encore plus en disant sur cette plage on peut voir de quelques cabanes en bordure de jungle dans laquelle résident des habitants au cœur lourd. Et une quatrième personne zoomera et dira dans une de ces cabanes habite une femme qui s'est isolée du reste du village. D'accord ? Donc on fera ça deux fois. Et à partir de là, normalement, on aura à peu près décrit l'environnement. Est-ce que c'est bon pour vous ?
Oui.
Bah du coup, je vous propose donc qu'on fasse deux tours, en commençant, si ça vous va, dans l'ordre du Discord, et après on fera un tour dans le sens inverse du Discord. Comme ça, c'est pas toujours la même personne qui décrit, qui fait la première description.
Pour toi, l'ordre du Discord, quel est-il ? Parce que parfois, les caméras ne sont pas au même endroit pour tout le monde.
La Cassis, après c'est Mathieu, après c'est Milouche, et c'est moi en dernier.
Ok. Donc, tu avais dit, on commence par quelque chose de très dézoomé, voire abstrait.
Ouais, si tu mets le niveau d'abstraction que tu veux, c'est juste, voilà, tu donnes un premier aperçu de l'environnement de très loin, et nous, on va zoomer dans ce que t'as décrit une première
okay.
fois.
Ok. Une flaque d'un vert sombre, entourée de blanc duveteux.
Un brouillard qui s'écoule entre deux collines et qui tombe comme une cascade lente dans une vallée.
Des écharpes du brouillard s'accrochent à une tour à moitié détruite. Pourtant, par quelques fenêtres de la tour, on aperçoit la lumière d'un feu vif.
Et si on s'approche de ce feu vif
On s'aperçoit qu'autour, il y a des silhouettes humaines au milieu d'un petit village en ruine, au milieu d'une forêt.
Donc là, je recule, c'est ça ?
Alors là, du coup, on va changer pour pas que ce soit toi qui fasse toutes les premières descriptions. Du coup, c'est toi, Taliesin, qui va reprendre.
Ok.
Donc, on va toujours être dans le même environnement, mais du coup, tu peux décrire quelque chose en partant d'assez loin, toujours, mais qui sera différent, qui peut être à côté de l'environnement qu'on a déjà décrit, ou tu vois, en prenant un angle qui n'est pas le même.
Ouais, ok. Les silhouettes de ces personnes frissonnent parce qu'en fait, il y a comme le souffle froid d'un vent qui semble venir de très loin.
Ce vent qui traverse la vallée fait lentement tourner d'immenses pales de moulins qu'on a installés au creux des deux collines.
Et plus loin dans la vallée, le même vent vient caresser des champs de blé dont les grains remontent à dos de mulet jusqu'au moulin.
La maigre récolte est donnée au meunier qui passe la porte de son moulin, fissuré par le lierre qui ronge victorieusement la pierre.
Ok, super. Du coup, ce que je vous propose maintenant, est-ce que c'est bon déjà pour vous ? Est-ce que vous avez à peu près une idée assez claire de l'endroit où on va jouer ? Ça va pour vous ? Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on crée chacun et chacune un cadre. Donc, on va déjà faire un premier tour. Chacun, chacune, on choisit un cadre. On fait un premier tour pour vérifier qu'il n'y ait pas de cadre en doublon et aussi pour vérifier qu'on laisse pas de côté un élément de l'environnement, voilà, qu'on se partage bien tout ce qui pourrait être utile. Et ensuite, on passera vraiment à la création en tant que telle. Vous avez des exemples de cadres un petit peu plus haut sur le miro. Donc, je redonne quelques exemples, hein, mais le cadre, ça peut être le froid qui s'immisce partout, les animaux qui vivent parmi les habitants, la forêt sombre et profonde, l'espoir et les croyances des habitants, le monde extérieur, la peur, le temps qui ronge. Voilà. Donc, je vous propose, chacun, chacune, on réfléchit rapidement à un cadre, on se fait un petit tour, et ensuite on les écrit. Okay. Pour moi, c'est bon, j'ai le cadre.
Moi aussi, bien. Je pense.
Moi, j'hésite encore entre deux.
Moi aussi, donc t'inquiète, on pourra se donner.
Ok.
Ouais, moi j'ai une idée aussi.
Ok. Je te laisse, vas-y Mathieu, dis-nous.
Eh bien, moi je pensais au vent qui passe et qui ne s'arrête pas.
Ok. Du coup, moi je pense jouer la nature qui ronge. Mais j'ai aussi une autre idée si jamais il y a collusion.
Alors je pensais faire le temps qui passe, mais peut-être que ça pourrait faire de la redondance avec la nature qui ronge. C'est à toi de me dire ce que t'en penses.
Ça peut en effet être redondant, et surtout il y a les humains. Mais vas-y, Taliesin, c'était quoi tes idées à toi ?
Y en a une qui est assez proche de celle de Mathieu et un peu de la tienne aussi, ouais. D'ailleurs. C'est le vent qui mord et qui caresse.
Ouais, ça du coup ça va être redondant avec Mathieu.
Ouais. Et sinon c'est les légendes autour de la tour en ruine.
D'accord. Et bah du coup, je pense que le plus simple, c'est que toi, la Kézis, tu prennes le temps et moi je vais prendre l'espoir des habitants ou leur hubris de manière plus générale. Et toi, du coup, de ton côté, tu peux prendre les légendes de manière plus générale que juste autour de la tour. Ok.
Ok.
Du coup, pour créer son cadre, donc on va lui donner plusieurs choses. On va lui donner deux attraits. Donc les attraits, c'est ce que le cadre veut. Donc si pour le créer, ce que je vous propose, c'est toujours d'avoir en tête la phrase « le cadre veut ». Par exemple, dans le cadre de l'exemple qu'on a, c'est l'espoir des habitants. Donc le cadre veut rester ténu pour ne pas devenir une ambition. Et l'espoir des habitants veut aussi améliorer la vie des plus pauvres. Après, on a un état, donc ce qui est ce que le cadre est. Donc, par exemple, l'espoir des habitants, il s'arrête au début de la forêt noire. Et enfin, on a une synecdoque, donc qui est quelque chose qui permettra de mentionner le cadre sans le nommer directement. Par exemple, dans le cadre de l'espoir, ce sera la couleur dorée. Donc ça peut être une couleur, ça peut être un son, ça peut être une odeur. Voilà, c'est quelque chose qui nous permettra de mentionner ce cas, de dire qu'il existe, mais sans forcément le nommer directement. Ok ?
Oui.
Attrait et état peuvent être en concurrence, peuvent être antinomiques les uns des autres, c'est pas forcément un problème. Ok ?
Oui.
Et de même, les attraits sont des choses que le cadre veut, mais c'est pas grave si on les réalise pas. D'accord ? On se prend, si ça vous va, ça, on se dit jusqu'à 50, 21h50 pour créer chacun chacune son cadre. Mmh. Et ensuite, on se fait un petit tour. C'est bon pour vous ?
Oui.
Moi,
oui.
C'est bon.
Ok. Bah, dans ce cas-là, je vous propose qu'on se fasse un petit tour des cadres. Donc, c'est plutôt simple. Chacune, on fait un tour des cadres. Donc, on présente vite fait son cadre, on donne ses attraits, son état, sa synecdoque. Et une fois qu'on a donné tout ça, on va donner un élément partagé. Donc, un élément partagé, ça peut être un endroit, ça peut être une personne, ça peut être un moment de la journée, un animal qu'on partage avec un autre cadre. Et ça peut être soit un élément de tension entre nous deux, soit un élément d'osmose. Donc, chacune, on en donne un. Et normalement, par la magie des mathématiques, on devrait tous à la fin en avoir deux.
Ok, les maths c'est fou.
Pour l'instant, de toutes les configurations que j'ai tentées, ça a marché. Mais je pense qu'en vrai, il y a une vraie combinatoire derrière, mais je n'ai pas calculé, mais ça marche. Bah du coup, qui veut commencer à présenter son cadre, le présente, puis après on enchaîne.
Je peux si vous voulez.
Donc
le temps qui passe, ses attraits c'est éroder la pierre et faire pousser la forêt. Son état actuel, c'est que de nouvelles bâtisses se sont élevées, vu qu'on avait parlé de ruines, mais qu'il y a un nouveau village, hein, dans nos descriptions. Sa synecdoque, c'est le lierre, qui est une représentation donc, de la nature qui pousse lentement pour essayer de repousser les constructions. Et en élément partagé, je pensais justement que le temps qui passe voudrait bien se débarrasser définitivement de la tour, finir de l'effriter. Mais que la tour, les légendes locales aimeraient bien que cette tour reste pour que les légendes à son sujet persistent.
Donc c'est top, ça vous fait un élément de tension entre vous deux.
Ouais.
Bah, je veux bien enchaîner, tiens. Donc moi je joue l'ambition des habitants, ou l'hubris des habitants, c'est prendre au sens assez large. Donc l'ambition des habitants veut peupler la vallée. Elle veut abattre le passé et elle ne demande qu'à être réveillée chez chacune des habitants. Sa synecdoque, c'est le bruit des grains de blé. Et je pense que je vais mettre un élément partagé avec le vent qui passe, si ça te va. Et mon élément partagé, ça sera les moulins qui s'élèvent très haut. Et je propose que ça soit un élément... Moi, je dirais tension, mais ça peut aussi être un élément d'osmose. C'est comme tu sens ton cadre.
Ok, j'avais justement pensé à un élément entre nous deux, mais qui est complètement différent. Mais du coup, je vais penser à un autre.
Et du coup, est-ce que tu le verrais plus en tension ou en osmose? Parce que d'un côté, tu fais fonctionner les moulins, mais de l'autre côté, je pense, potentiellement, ils freinent ton passage.
Et pour l'instant, dans la façon dont je vois mon cadre, ça, c'est plutôt de l'osmose, ouais.
Ok. C'est bien parce que ça fait un... Ça évite qu'on veuille vraiment mettre à bas toutes les constructions. Et qui veut poursuivre, poursuit.
Mon cadre, ce sont donc les légendes locales de cette vallée qui veulent qu'on se souvienne de leur nom, car... on verra, j'imagine. Mais également qu'éclosent de nouvelles légendes. Son état actuel, c'est que justement, ces légendes ne sont plus comprises par les habitants de la vallée. Sa synecdoque, c'est le moulin à palabres, qui est le pendant, on va dire, métaphorique du moulin qui fait vraiment du blé. Et en élément partagé, je pensais faire quelque chose avec justement le cadre de l'ambition des habitants, Milouche, qui peut être à la fois, qui peut être soit tension, soit osmose, justement, qui est que les légendes locales veulent que les habitants s'enracinent ici et les aident à s'enraciner.
Alors du coup, ouais, c'est pas mal. Si on fixait ça dans un lieu, tu vois, ou une personne, par exemple.
Ouais.
Ah, j'ai une idée à te proposer.
Dis-moi.
Est-ce que ça t'irait que notre élément partagé, ça soit un personnage mythique ou une, oui. Un personnage du folklore. Et du coup, il y a un peu une guerre mémorielle parce que toi, tu veux qu'il soit bien présent et puis moi, je veux qu'on...
Mais à un moment, en fait, je pensais même sur le cadre introduire une espèce, tu vois, un peu comme dans le Pays Basque, les légendes du Bas-Sajoun, qui est une espèce de perso qui est parfois un croque-mitaine, parfois quelque chose de positif, qui est censé hanter le lieu.
Ok, mais dans ce cas-là, je te propose qu'on dise un héros ou une héroïne locale.
Ouais.
Est-ce qu'on peut juste lui donner un nom? Comme ça, ça sera plus simple quand on l'utilisera.
Boontred.
Boontred, c'est parfait.
Impossible de savoir son genre comme ça.
C'est très bien. Hop. Et last but not least, je te propose de décrire ton vent, Mathieu, et je vais remplir les éléments de ta fiche, comme ça nous, on les aura aussi sous les yeux.
Yes, super. Donc, le vent... Son attrait, c'est emporter au loin et faire tourner les moulins, justement. Son état, c'est de souffler en permanence. Pour moi, c'est vraiment un élément qui est omniprésent dans la vallée tous les jours. Voilà. Et la synecdoque que je propose, c'est la force. Et alors... Eh bien, je crois que si on veut respecter la combinatoire, je dois faire un lien, du coup, vers la Kaisis. Et donc, le temps qui
Est-ce
passe...
Est-ce que je peux te proposer une osmose pour qu'on ait un équilibre?
Par exemple, dis-moi.
Je me dis que le vent participe à éroder et qu'il aime peut-être se projeter sur la pierre... Et précipiter justement ce temps qui passe et précipiter aussi la propagation des graines qui fait pousser la nature.
La propagation des graines, ça me plaît beaucoup, ouais.
Ouais, la propagation des graines.
J'aime beaucoup parce que c'est hyper imbriqué, tu vois, il y a vraiment d'un bout à l'autre de la chaîne du blé, vraiment de les graines qui poussent jusqu'au moulin, quoi. Ok, bah écoutez, super. Je pense qu'on a à peu près tout. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une première scène d'introduction. Donc cette scène d'introduction, elle va être centrée autour d'une idée. Donc la première joueuse qui a une idée un peu précise l'a dit. Donc je vous redonne quelques idées possibles. Le feu crépite dans la cheminée, le vent souffle sur des traces de pas dans la neige, une lanterne se balance dans le vent, le crépuscule embrase les champs de blé, les feuilles mordorées virevoltent autour d'un arbre, la pluie fait teinter l'étude de la maison... Cette première joueuse, du coup, va donner cette idée, va faire une description du point de vue de son cadre, en utilisant le soleil de parole, évidemment. Et après, une fois que c'est fait, eh bien, chacun, chacune, on peut utiliser les mécaniques de rebond, de grandissement, toujours en se distribuant la parole avec le soleil. Et ce que je vous invite éventuellement à faire, si ça peut vous aider, c'est au tout début, juste pour les deux, trois premières, dire, bah voilà, là j'ai utilisé un rebond, là j'ai utilisé un grandissement, comme ça on se les fixe un petit peu. Et c'est clair pour tout le monde. C'est bon pour vous?
C'est bon pour moi.
Ok.
Et bah, la première personne qui a une idée se lance. Oui, pardon, vas-y.
Bah, justement, j'allais dire que j'en avais une.
Et bah, super.
C'est que c'était en fait de continuer la scène qu'on avait établie au tout début, où le meunier recevait le grain. De mon point de vue, je pense qu'il a. Le meunier. Alors, du coup, je dois prendre une branche.
Ouais, tout à fait. Parfait.
Le meunier, en remarquant ce lierre qui essaie de ronger. Son outil de travail prévient son épouse et on peut sentir l'odeur violente du vinaigre qu'elle verse après avoir arraché des racines et on peut aussi entendre le bruit sec des picots du lierre qui sont arrachés et qui font tomber du mortier sur le sol. Hop.
Je vais faire un rebond. Car la femme du meunier, en fait, qui peut-être connaissait un peu déjà ce terrain, sait que c'est une tradition très ancienne, en fait, ici, d'utiliser le vinaigre pour arracher les mauvaises herbes, et notamment le lierre qui a tendance à pousser vraiment abondamment dans la région, qui est la seule plante, en fait, qui ne craint pas vraiment le vent ici.
mais certains, la voyant faire, lui rappellent que on dit que cette odeur de vinaigre peut appeler certains mauvais esprits et qu'on entend parfois leur voix dans le son du vent.
L'odeur du vinaigre est emportée par le vent plus loin dans la vallée.
L'odeur du vinaigre qu'on lance au-dessus d'une large prairie, et au fur et à mesure que les lunes s'écoulent et que les soleils se lèvent, la prairie devient un champ stérile et les premières demeures de pierre s'y établissent. J'ai rebondi sur ton odeur.
Je vais faire un grossissement parce que malgré l'activité des humains qui fourmillent à présent dans la vallée, si on regarde un peu plus près du sol, on peut voir les vraies fourmis. On peut voir les insectes qui grouillent eux aussi et qui contribuent avec l'aide du vent à continuer de lutter contre cette urbanisation qui n'est pas désirée par le temps qui passe.
On peut voir le moment où le vent va souffler selon comment les fourmis sortent de leur fourmilière.
Et c'est ainsi, je suppose.
On peut conclure là-dessus. C'est bon pour toi, Mathieu, aussi ?
Ouais.
Ok. Donc, on fait passer la première perle de la première scène. Est-ce que ça va pour l'instant, en termes de mécanique, de comment les scènes se déroulent ? C'est tout bon pour vous ? Eh bien, du coup, je vous propose que n'importe qui a une idée lance une description. Et là, c'est bon, on est parti dans la scène. On ne sait pas quelle est l'idée derrière la scène.
Ah. Eh bien, je me relance, du coup. Dans la vieille tour, la tour à palabres, le moulin à palabres d'ailleurs, pardon, comme les habitants l'appellent encore, même s'ils ne se souviennent pas forcément de pourquoi, le bois vermoulu du deuxième étage finit par céder et s'effondre dans un bruit mat et à la fois comme un coup de tonnerre pour les habitants.
Vas-y.
Je rebondis sur le tonnerre. Le tonnerre qui gronde dans les hauteurs, au-delà des collines, et qui est apporté par le vent d'orage, qui en quelques instants amène les éclairs sur la vallée.
Et si l'on regarde sous ces nuages, sous ce tonnerre lourd, elle se tient droite avec sa cape et elle regarde cette tour en réfléchissant aux moyens de l'abattre.
Tandis que l'on s'éloigne de cette silhouette, juste à côté, dans une des plus anciennes des nouvelles maisons peut-être, alors que l'odeur de l'ozone emplit la pièce, que craque le roulement du tonnerre se mêlant aux pierres qui tombent et qui roulent de l'ancienne tour. Il y a une très vieille femme qui pleure.
Ses larmes roulent, elles roulent et elles tombent au sol. Ce sol qui, pour une raison qu'elle ignore, ne fait plus rien pousser depuis des mois.
Une main se pose sur son épaule. Une promesse de retour, prononcée par sa petite fille, qui va partir au loin.
Elle pose elle-même sa main sur la main de la jeune femme, cette main bouffée par le vinaigre, et ses larmes continuent de couler. Tandis qu'elle ne comprend pas pourquoi la terre est devenue aussi stérile Et pourquoi, comme la fertilité de la terre lui a été enlevée, sa force a disparu.
Et sans qu'elle le sache, tout au fond de son lopin de terre, là où elle ne va plus, au milieu des ronciers, seules choses qui parviennent à survivre, un tout petit bourgeon pousse, qui est protégé des épaisses gouttes de pluie par le couvert des chênes recouverts de lierre.
Dans le grand vent d'orage, la petite graine, emportée par le vent, qui est venue s'arrêter au fond de ce jardin et qui donnera ce bourgeon.
La nuit, tandis que le vent crie, dégageant les branches de lierre, des formes se glissent malgré le danger au pied de la vieille tour maintenant abattue et en ramassent des pierres, des moellons pour les ramener chez eux.
Le cri et les pierres, ce sont les armes qu'utiliseront la jeune fille devenue vieille, revenue dans le village, quand on tentera d'abattre le dernier arbre qui se trouve au fond du jardin de sa grand-mère. On peut passer à la troisième scène.
On racontait avant que il y avait quelqu'un qui protégeait la vallée et que tant que sa mémoire n'était pas oubliée, le blé continuerait de pousser. Personne ne sait si c'était un guerrier ou un meunier ou une meunière ou une boulangère, mais tout le monde se souvient du nom de Guntred.
Et aujourd'hui, certaines personnes aimeraient propager à nouveau ce nom. Alors que, à la place de l'odeur des blés fauchés et de l'herbe coupée, on sent celle du charbon. Vous voulez rajouter quelque chose ?
Et le nom de Guntred est porté par le vent.
Le charbon, c'est le moteur qu'utilisent maintenant les meuniers, en tout cas ceux de la ville, pour moudre leurs grains. Et le chant que produisent ces meules n'évoquera jamais le nom de Guntred. Et nombreux sont ceux à penser que c'est tant mieux.
Le pain qu'on mange maintenant au village n'est plus produit au village.
Et le lierre continue de pousser, mais des nouveaux produits viennent l'agresser. Et les pierres continuent de s'érouder, mais des nouvelles pierres viennent les remplacer.
La jeune fille qui est revenue de la ville, avec plein d'idées nouvelles, a construit un nouveau moulin. Un grand moulin à vent, plus moderne, plus efficace, mais qui utilise bel et bien le vent.
Elle l'a appelé le moulin de Guntred.
À la porte de ce moulin, confectionnant un pain que les villageois aiment tant, se tient la femme de cette jeune fille du village. Elle ne sait pas pourquoi le moulin porte son nom. Et la jeune fille ne sait pas exactement lui expliquer qui se cache derrière ce nom et quelle fut la légende qui l'a créé. Ainsi.
Un homme que personne n'a jamais vu entre dans ce village. Il dit qu'il vient de loin parce que ici, on raconte des histoires qu'on ne raconte nulle part ailleurs.
Ces histoires, elles ont commencé il y a longtemps, avant que ce village n'existe, avant que le village d'avant n'existe. Peut-être même avant celui-là encore. Et désormais, il aimerait les déterrer. Un peu comme on enlève les mauvaises herbes des routes maintenant pavées.
et tandis qu'il déterre ses histoires, avec pour seul outil sa voix et son regard franc qui charme les villageois, nombreux sont ceux à lorgner sur les boutons qui ornent son gilet. Ils sont faits d'argent et possèdent un motif de lierre. Nombreux sont les villageois qui voudraient posséder les mêmes boutons.
La seule chose que l'on a retrouvée, c'était un manteau. Un manteau dont on avait retiré les boutons.
Les villageois ont été beaucoup plus forts. Beaucoup plus forts. Que cet homme au sourire charmeur qui voulait déterrer leur passé.
Et la femme de la boulangère regretta alors de ne pas avoir osé lui demander d'où venait son nom.
C'est ainsi. Les moulins se dressent. Ils sont immenses, semblent indestructibles. Pourtant, en face d'eux, dans leur regard perpétuel, se trouve la tour qui est tombée.
Et tout autour de cette tour, de nouvelles tours, non pas faites de pierre, mais plutôt de briques, dont les fumerolles sont emportées par le vent, qui parfois aimerait pouvoir tousser des graines plutôt que de la poussière.
Les graines, apportées en grande quantité, non plus seulement pour nourrir les moulins, mais aussi pour replanter en amont, pour éviter l'érosion, disent ces ingénieurs venus de loin. Et ce sont des arbres, tout petits, qui commencent à pousser entre les deux collines.
Si l'on regarde autour des arbres petits, les mains qui s'en occupent, celles qui les font grandir, ce sont celles de personnes qu'on appelle Buntred, car c'est ainsi qu'on se nomme ici.
Curieusement, depuis que tous ces moulins ont poussé, que les graines se répartissent, que ces arbres petits ont commencé à émerger, on voit moins de lierre sur ce qui reste de la vieille tour.
Les nouveaux bâtiments n'ont plus le même goût, n'ont plus la même texture. Les mains des nouveaux habitants n'ont plus les mêmes cales, plus leurs yeux n'ont plus la même lueur. Et curieusement, étrangement, alors que ces nouveaux bâtiments ont poussé, à la place des plantes, à la place de ces arbres qu'on essaie désespérément de faire revenir, il y a moins de monde qu'avant dans ce village.
La jeunesse est emportée au loin, comme les graines de la vallée. Elle veut voir ailleurs, elle veut voir le vaste monde, vers là où souffle le vent.
Comme les graines égarées qui restent dans la vallée, les quelques-unes qui n'ont pas été soufflées par l'élan gigantesque du vent. Quelques jeunes s'installent dans la tour. Leurs mains sentent le vinaigre. La tour sent le vinaigre. Tout autour d'eux, tout sent cette odeur âcre. C'est ainsi ? On arrive à la dernière scène avant le glas.
Qu'il l'ait voulu ou non, le temps a fini par passer, bien que ce soit d'une façon qu'il n'apprécie pas. Et dans un grand cycle, comme le circuit du vent qui traverse la vallée sans jamais s'arrêter, le nom de Guntred, qui est sur toutes les lèvres, commence à retrouver son sens. Même si ce n'est pas forcément le même qu'avant.
Il arrive que au pied de la vieille tour, ou parfois ailleurs dans le village la nuit, alors que le vent se fait moins présent et que sa voix devient plus douce, des gens, ceux qui possèdent encore les pierres de la vieille tour, se réunissent autour d'une torche et racontent des histoires, mais comme ils ne connaissent pas les histoires d'avant, les dits de Guntred, les dits du moulin à palabres, ils en inventent de nouvelles.
Et maintenant que les arbres ont poussé, c'est vrai, parfois, certains jours, le vent est beaucoup moins fort.
Il y a très 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 longtemps, quand le village était jeune, ou celui d'avant ou celui d'encore avant, quelqu'un a dit « Si on n'y prête pas garde, un jour, on tuera le vent. »
Aujourd'hui, il y a 3 boulangeries dans le village. Mais une seule a été construite avec, au-dessus de sa porte, une très vieille pierre. Une très vieille pierre dont, si on l'a déchaussée, on pourrait voir qu'une des faces intérieures a été gravée danger.
Il tient la pierre devant lui. Il aimerait la marquer de son signe pour que lui aussi soit connu et que lui aussi on l'appelle pour du travail ailleurs, au-delà de la vallée. Alors, il grave un G parce qu'au fond, c'est un bel oiseau. C'est ainsi ?
C'est ainsi.
C'est ainsi.
Ok.
C'est ainsi.
Du coup, nous en sommes maintenant rendus au glas. C'est assez simple. On va jouer une dernière scène qui va être centrée sur le glas. Donc cet élément transformateur qui peut modifier en profondeur nos cadres. Et c'est ça qu'on va raconter dans cette dernière scène. Comment nos cadres sont modifiés, transformés par le glas. Et on peut, lors de cette scène, faire un geste particulier. Ça s'appelle la dislocation au crépuscule, c'est-à-dire que on prend à ce moment-là l'ensemble des bâtons du soleil de parole, on les met sur son cadre, et on explique comment son cadre disparaît complètement. C'est un moment qui n'appartient que à la personne qui est en train de raconter, et à ce moment-là, bah, du coup, son cadre n'existe plus du tout dans l'environnement dans lequel on est. Donc il y a quelques exemples de glas en haut, je vous en cite quelques-uns. Le glas peut être la mort qui rôde, une nouvelle route qui vient traverser le lieu, le manteau étouffant et implacable de la neige, l'effondrement de la montagne, la destruction de la forêt qu'on vient couper pour faire rouler des automobiles, etc. La première joueuse qui a une idée précise de glas coupe la corde du chapelet et annonce du coup qu'elle va lancer le glas et lance une description. Je vois que Mathieu a déjà une idée très précise. Donc si tu veux, je te laisse couper la corde en supprimant le petit fil et je te laisse te lancer dans ta dislocation.
C'est ça ? Eh bien, le vent ne souffle plus. On entend encore, dans la vallée, le son du vent dans les arbres, cette forêt dense, beaucoup trop dense, qui a été oubliée là-haut, jamais vraiment coupée, et dont les arbres maintenant hauts, presque aussi hauts que les collines, empêchent le vent de s'écouler jusqu'au fond de la vallée.
Le temps s'est perdu. Il s'est écoulé tellement vite, ou plutôt, les humains de la vallée l'ont fait s'écouler tellement vite qu'il s'est disloqué en 1 milliard de confettis. Et tout ce qui reste au milieu du bitume et du béton de ce temps qui souhaitait passer, c'est ironiquement le blason de ce qui aimerait devenir une ville, une feuille de lierre sur fond d'une tour.
Et chaque jour, sous ce blason, passent de nouvelles personnes qui montent à l'assaut des moulins désormais muets et tentent de faire revenir le vent Elle tente par de nombreux moyens. Et toujours le vent reste muet. Mais toujours elle s'obstine.
Émoussée, érodée, lisse, presque dégalée. Les anciennes pierres de l'ancienne tour sont maintenant à travers tout ce qui est maintenant une ville. Les vieux moulins, eux, ont remplacé la vieille tour. Ils sont au bord de la destruction. Mais une seule chose n'a pas disparu qui dure plus longtemps que tout cela. Chaque fois que les gens passent devant, même s'ils ne savent pas vraiment pourquoi, ils ont une histoire à raconter sur cet endroit. Sur l'époque où ici on écoutait le vent, où ici on faisait le pain, où ici les mains sentaient le vinaigre.
Ces mains qui ne sentent plus le vinaigre s'agitent dans ce village, dans cette ville, et indiquent des chemins pour trouver ce que l'on cherche dans cet endroit qui désormais s'appelle Boontred.
Je crois que c'est ainsi.
C'est ainsi, ouais.
C'est ainsi.
C'est ainsi.
On va jouer une toute dernière scène. C'est-à-dire que, exactement dans le mouvement inverse de ce qu'on a fait au tout début de la partie, une première personne va décrire l'environnement dans lequel on est maintenant, de très très près. Une deuxième personne va dézoomer encore plus. Ensuite on s'envole, et c'est la fin du jeu. Donc,
j'ai une image si vous voulez.
Eh ben vas-y, et du coup on reprend dans l'ordre du Discord avec Mathieu qui enchaîne.
Entre le trottoir et la route bitumée, faiblement mais vaillamment, pousse un brin de pissenlit.
Au pied d'une boulangerie, dont s'échappe l'odeur du pain qui flotte dans la rue, le pain qui cuit, et par les grandes vitres modernes, on voit le boulanger au milieu de toutes ces différentes machines qui pourtant a bel et bien les bras pleins de farine pour fabriquer du pain.
Autour de la boulangerie court une myriade d'enfants qui s'enfuit dans la rue et s'écoule comme une petite rivière. Aujourd'hui, ils ont réussi à voler une miche de pain.
Ils courent comme des fourmis au milieu des rues que l'on voit de si haut. Et s'ils avaient pu s'arrêter un instant, peut-être auraient-ils senti comme une petite caresse, une petite bise, le souffle du vent.
Ok. Et ben c'est la fin du jeu.
Je me rends compte que à la base tu avais dit que c'était le début du 19e, mais que je suis partie sur des usines à un moment.
Oui, ça marche. Hein, ça. Oui. On a flirté un petit peu plus loin, mais c'est pas très gênant. Tu vas en rester dans le canon. On n'a pas introduit trop de trucs très modernes. Ça marchait très bien.
C'est pas évident de... Enfin, pour moi en tout cas, d'être toujours du point de vue de mon cadre. De pas se laisser un peu manger par la narration et de pas rebondir juste sur un truc avec l'idée qui te vient telle qu'elle te vient quand même.
C'est... Ouais, faut... Pour ça, tu vois, faut vraiment voir le cadre comme un espèce de point d'appui. En fait, c'est pas très grave si tu vas plus loin ou si tu tires plus loin, parce qu'en fait, ça raconte un truc qui reste intéressant, tu vois. Tant que tu vas pas empiéter trop sur ce que font les autres, c'est pas du tout ce que t'as fait, donc pour moi ça fonctionne.
Je trouve ça assez drôle que au final le temps soit passé, mais se soit disloqué quand même. On peut pas arrêter le temps. Mais le temps n'a pas obtenu ce qu'il veut. C'est assez drôle. J'aime bien l'image qu'on a créée avec les légendes aussi qui... Au final, elles sont mortes. Mais en fait, il y en a de nouvelles. Puis le village a obtenu ce qu'il a voulu. Il a grandi, mais c'est plus un village. Enfin bref, il y a eu C'est un motif qui s'est répété, je trouve. C'est-à-dire que le vent a tellement bien travaillé qu'il peut plus souffler parce qu'il a plus la place.
Bah moi j'étais un peu en surcharge au début, je pensais avec toute la technique à assurer. Et puis aussi le fait que je pouvais pas consulter facilement d'autres trucs, etc., etc. Donc j'avais un peu de mal à me souvenir des différentes choses. Mais je dirais paradoxalement, mon cadre a été hyper présent. Vous avez tous repris le vent tout le temps, etc. Et donc c'était très bien, finalement j'avais peu de choses à faire.
C'est que, enfin, ce qui était super avec ton cadre, du point de vue, on va dire, purement narratif, du conteur et tout ça, c'est que il amène un élément non visuel et qui met une ambiance directement. Et donc, c'est du pain béni, en fait, pour raconter des choses et donner une ambiance en trois mots. Donc, il était très utile, en fait, pour ça, ton cadre. Parce que le vent qui souffle, c'est également une super métaphore du temps qui passe, de la destruction des choses, du renouveau, enfin... Et en fait, il s'intégrait très facilement à tous les autres cadres.
Bah d'ailleurs, j'avais, enfin mes deux relations, enfin mes deux, comment est-ce qu'on dit, les deux domaines.
Éléments partagés.
Les deux éléments partagés, c'était les choses positives en fait.
Ouais. Ouais,
j'avais rien en opposition. Toi, t'avais les deux autres choses. Ouais.
J'ai beaucoup aimé cette scène. Enfin, je suis d'accord avec toi sur ce que tu disais, la Kaisis, de. Tu vois, il y avait des motifs et tout ça. Et en même temps, il y a une scène qui était purement gratuite, mais que j'ai trouvé hyper cool. C'est la scène où l'espèce de conteur là vient pour récupérer des légendes et tout ça. Puis en fait, le village le supprime. Et j'ai trouvé que c'était très cool parce que ça faisait. Mais ça ressemble pas mal, tu vois. Tu sais, dans les légendes un peu classiques, t'as des motifs, puis au milieu, il se passe un truc, on sait pas trop pourquoi c'est là. Ça veut dire quelque chose en tant que tel, c'est très indépendant. Et il y avait vraiment ce côté-là dans cette scène qui était purement un bloc, quoi.
Ouais, bah, pour moi, en fait, c'était. Déjà, t'avais introduit l'idée des gens qui enviaient ces boutons. Il me semble que c'était toi qui l'avais introduit, cette idée-là. Et pour moi, en fait, ça. Ça avait lien un peu avec deux cadres, c'était le tien et celui des légendes. C'est-à-dire que les villageois sont tellement orgueilleux qu'ils n'ont pas envie de partager, qu'ils préfèrent posséder plutôt que de partager, ils préfèrent prendre. Et peut-être aussi que ça a créé une nouvelle légende. C'est cet homme qui est venu et qui a disparu, etc. Et du coup, je trouvais que c'était thématique, même si c'est vrai que c'était saugrenu, parce qu'on avait tout qui était très poétique, et tout d'un coup, c'est devenu super terre-à-terre, puis c'est reparti sur...
mais en même temps, moi, je trouvais ça très dans la narration qu'on faisait, parce que ça racontait aussi un peu ton cadre, la Kaisis, de ces gens, et le tien Milouche, ces gens qui sont tellement orientés vers le progrès et le futur qu'ils refusent d'avoir un passé.
Oui. C'est vrai.
Et en même temps, tu vois, t'as le motif récurrent du nom, enfin du nom de la légende là, qui revient pas de plein de formes en prénom pour les enfants, soit en nom du lieu à la fin. Qu'en fait, ils arrivent pas à y échapper, quoi. C'est trop prégnant.
Mais en même temps, ils ont tué quelqu'un. Peut-être que le meurtre sera résolu des années plus tard en mode cold case. Tintin.
En plus, il faut un autre jeu de rôle pour jouer l'enquête.
Ouais, ouais. Alors, clairement, celui-là ne servira pas pour l'enquête.
Brindlewood, fait ça à la Brindlewood Bay avec des petites vieilles dames qui font une enquête.
Des vieilles dames qui vont trouver un crâne dans leur jardin.
Et le vieux et un manteau où il manque les boutons.
Ouais.
En plus, cette légende avec le nom, ce qui est bien, c'est qu'on s'est mal entendu, Milou, sur le nom. Moi, je disais Boontred et tu disais Boontred. Mais du coup, ça donne un truc super réaliste. Bien. Les gens, ils se souviennent même plus vraiment de ce que c'était le nom à l'origine.
Ah, d'accord.
C'est pour ça qu'il y avait un G sur la pierre. Mais je crois que du coup, t'avais pas.
Moi, ça me dérange pas parce que c'est comme ça que ça se passe dans la vraie vie, en fait. Hein.
Mais c'était un G dans le sens de la lettre.
Oui.
Tu l'as pas fait exprès?
Non.
J'étais persuadé que tu l'avais fait exprès.
Non, je l'ai pas fait exprès.
Non, c'est du
trop
coup,
bien.
Ça avait pas du tout le même thème. C'est que pour les spectateurs, ça fait oh, on sait enfin qui est Gunn. Ah bah non, c'est pas en fait qui est Gunntred.
ça fait vraiment erreur de traduction, tu sais. Ouais, oui. On prend un mot.
Les gens, ils ont fait Ils n'ont pas fait paléographie hein, dans le et coin. Oui.
Ah, mais après Brindlewood Bay, après, il faut jouer à Millevaux, du coup. Parce qu'une fois que le meurtre est révélé, eh bien, ça devient de l'horreur forestière avec la forêt, l'esprit du mec qui vient se venger au travers de la forêt parce que son crâne a été dérangé. Voilà, on peut faire une histoire en trois actes avec trois JDR différents. Je trouve que c'est un concept, il faut qu'on en parle à Volsung.
Ouais. L'avantage avec ce truc, c'est avec ce jeu-là, c'est que tu peux créer beaucoup de settings, c'est clair. Tu peux.
On aperçoit quand même qu'on a eu le réflexe, mais qui est hyper compliqué, j'imagine. Alors, je sais pas, dans tes playtests, dans les parties que tu as déjà fait, Minouche, c'est si souvent le cas. Mais un peu contrairement à ce que tu nous indiquais au début, on a quand même été très chronologique dans le déroulé.
Il y a eu des petits retours.
En fait, je le dis au début parce que je sais que si je le dis pas, c'est presque expliqué dans les règles et tout ça. Si je le dis pas, en fait, effectivement, on va être super chronologique et du coup, mais c'est logique parce que tu peux pas tout construire à l'envers, quoi. C'est trop dur, surtout en impro. Mais du coup, c'est normal que ça soit. Mais il y a eu des retours, ouais, tout à fait.
Il y a eu des retours avec la pierre, etc., avec la boulangère. Il y a eu un fast forward. Enfin, c'est. Enfin, la jeune fille, elle était vieille, puis après elle est revenue, elle était boulangère. Enfin, c'est. Il y a eu quand même des petits sauts de puce.
Oui, c'est ce que porte le jeu. Tu vois, enfin, en tout cas, dans les playtests, je crois que j'ai jamais fait de playtest où on a tout construit à l'envers, quoi. Souvent, on fait ça, des petits sauts de puce qui explicitent des éléments, globalement. Mais parce que c'est trop. Enfin, tu peux pas tout faire dans l'autre sens, quoi.
Mais du coup, c'était bien sympathique.
Très, très sympathique, oui. Débordant d'optimisme.
Mais c'est mélancolique quand même, parce que, au final, ils ont détruit un peu la nature autour d'eux à force de. Bah, c'est la vraie vie, quoi. C'est l'industrialisation. Mais le village a fini par grandir, même s'il a eu un passage à vide.
Oui. Il est repassé par l'étape forêt avant de redevenir une ville.
Parce qu'il y avait du bois à exploiter, MDR.
Ouais, moi j'ai trouvé même qu'il y a des moments assez touchants dans ce qui a été posé, notamment le moment où la grand-mère, je sais plus, c'est toi Mathieu qui l'a introduit, de mémoire.
C'est moi qui ai introduit la vieille dame.
Ah oui, oui. Mais cette espèce d'enchaînement, je trouvais assez cool.
Et en fait, le truc de la jeune fille qui promettait, je trouvais ça tellement joli qu'après j'ai mis. Ouais, mais en fait, il y a une graine qui pousse au fond du jardin. Ouais.
Ah, c'était ça, ça venait.
Oui.
Mais au moment où moi j'ai introduit cette jeune fille, comme quoi faut pas faire des plans, tu vois.
Ouais.
Pour moi, j'imaginais ça comme une promesse qui ne se réaliserait jamais, en fait. Parce qu'elle serait emportée au loin et elle reviendrait jamais dans la vallée. Et voilà, mais. Mais il y a quelqu'un qui l'a fait revenir tout de suite, et après, elle a vraiment été centrale dans plein d'éléments du récit, donc ça fait bien.
Et oui, on a même fini sur une boulangerie, au final.
Mais tu vois, c'est rigolo. Est-ce que pour toi, cette jeune fille, c'était celle qui a fait péter la tour, ou pas du tout? Quand tu l'as introduit. Je me suis posé la question, mais t'as peut-être pas la réponse, en fait, je sais pas.
Non, pour moi, la jeune fille, c'était... enfin, en fait, moi, j'avais dans l'idée que ça confondait deux tristesses, en fait, chez cette vieille femme, qui était à la fois que sa tour était en train de tomber en ruine et qu'il y a sa petite fille qui partait, quoi.
Mais tu vois, c'est vraiment ça où on met pas les mêmes idées, parce que c'est vrai, quand tu l'as introduit, moi, je me suis dit, bah oui, c'est la silhouette encapuchonnée qu'on a vue tout à l'heure, où il y a un truc, tu vois, alors qu'en fait, probablement pas.
J'avais pas du tout pensé à ça comme ça. Mais
moi j'avais pensé à ça comme ça, mais ce qui veut. Enfin, les deux fonctionnent bien. Mais ouais, il y a ce truc de double vérité. Je retiens quand même le G et le G, c'est très très drôle.
Ouais, mais ça a créé un suspense. Ah, oh, est-ce que c'est. Bah, oui. Eh ben non. Vous ne saurez jamais qui c'était.
Mais c'est parce qu'il s'appelle Boontred, en fait. Voilà, la vérité, c'est que c'est Boontred.
C'est pas Boontred.
Disons qu'il s'est toujours nommé Boontred avec un G, et tout le monde a...
Parce que dans sa langue d'origine, Boontred, ça veut dire G.
Ah, c'est ça.
Ah, ok, c'est pour ça. C'est un immigrant.
En Visigoth.
Je suis en train de Google pour voir si ce mot veut dire quelque chose dans une langue.
Alors, en fait, je l'ai inventé cet après-midi parce qu'on m'a demandé, je vais animer un atelier là sur l'interprétation des PJ-PNJ dans une association ici. Et on m'a demandé un pitch. Et voilà, il y avait Guntred qui servait de PNJ d'exemple sur tous les exemples que j'ai donnés. Sachez qu'il a eu son chaton a eu des problèmes avec des bûcherons du chaos, qu'il a eu des tas d'ennuis. Guntred ou Guntred, du coup en plus il a des petits problèmes d'identité, manifestement. D'état civil en tout cas.
Est-ce que c'est le moment de dire au revoir à tout le monde et de couper l'enregistrement ?
Je pense.
Ouais, oui. Je pense.
Je pense, oui.
Merci de nous avoir regardés.
Merci.
Salut.
J'ai dit une kipite, pardon.
C'est pas grave.
C'est pas du tout ça, une kipite, mais tout va bien.
Ouais, mais ça fait chic, c'est toujours bien.
Ah oui.
C'est ça.
Il y a déjà Volsung qui demande si tout baigne sur la conversation.
Non, mais curieux. Et puis, oui, tu vas voir qu'il va se connecter, qu'il va tout faire foirer les caméras et tout ça.
Oui, tant que tu te connectes pas.